campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous nous éloignons un petit peu de la Nièvre pour donner la parole à un des grands acteurs de l'économie sociale et solidaire, Bernard Devers, fondateur, président de l'association Habitat Humanisme, née en 1985. L'association a pour vocation de créer, d'acquérir ou de gérer des logements au profit des plus démunis. Ancien promoteur immobilier, Bernard a choisi d'injecter, selon sa formule, du social dans le béton. 32 ans plus tard, Habitat Humanisme anime un réseau de 55 associations locales, possède 8 agences immobilières à vocation sociale de foncière, Habitat Humanisme avec 3000 logements acquis, mais elle gère globalement plus de 7000 logements, Entreprendre pour humaniser qui dispose de 40 EHPAD et 2000 lits pour les personnes âgées dépendantes, 250 logements adaptés aussi pour les personnes malades, 1500 salariés, 3800 bénévoles, une antenne en Belgique, 1800 nouvelles familles logées en 2016, bref, j'arrête là. Auteur d'une lettre adressée au député, Bernard Devers s'inquiète des nouvelles dispositions législatives, qui priveraient les entreprises sociales comme la sienne de nombreux investissements solidaires que permettait entre autres l'impôt de solidarité sur la fortune.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Bernard Devers, bonjour.
Bonjour.
Bernard, je suis tellement content de vous voir parce que depuis le temps que je parle d'Habitat Humanisme, vous en êtes le président fondateur en 1985, vous promoteur immobilier. Vous avez pris conscience de la précarité de bon nombre de familles et vous avez décidé de proposer une offre assez exceptionnelle. Aujourd'hui, donc, j'ai donné les chiffres sur le nombre de familles logées, sur les logements que vous louez, dont vous avez fait l'acquisition, les 1500 salariés, 3800 bénévoles. Vous avez aussi une antenne en Belgique. C'est presque une multinationale. Vous êtes riche.
Alors, nous sommes riches. Non, nous ne sommes pas riches. En fait, nous sommes effectivement riches de la confiance de ces hommes et de ces femmes qui font précisément confiance à cette nouvelle économie. C'est-à-dire que l'argent ne nous appartient pas, ce sont des gens qui investissent. C'est même pas des dons, hein. Il y a des gens qui peuvent faire des dons, mais c'est autre chose, mais on va parler en fait essentiellement de l'économie sociale et solidaire, de la finance solidaire. Donc cet argent est mis à disposition, mais à tout moment, les personnes peuvent aussi retirer cet argent. Alors je trouve que c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait on travaille sur des situations de fragilité, de grande fragilité, et on nous a dit il y a 30 ans, mais en fait c'est une utopie, vous n'allez pas travailler sur de l'économie, il faut travailler que sur du don. Mais je dis on ne va pas travailler sur du don pour construire des logements, puisqu'en fait on construit un patrimoine, ce patrimoine il a une valeur, donc ça donne aussi une garantie aux gens, on peut travailler sur de l'investissement, qui est de l'investissement solidaire. Finalement, ça a marché. Alors on va dire, oui, mais les gens, ils vont retirer leur argent. Non, il y en a qui l'ont retiré, bien évidemment. Il y en a qui sont arrivés à la retraite, qui ont dit, voilà, je retire cette épargne. J'en ai besoin aussi, d'ailleurs, pour mes enfants. Mais finalement, cet argent, en fait, les gens, ils l'ont maintenu. Et ils l'ont maintenu parce qu'il y a une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ce que nous disons, c'est que nous sommes là pour faire en sorte de, finalement, de supprimer, d'atténuer, en fait, des fractures, des déchirures sociales, et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de cohérence, et donc par là même de cohésion au sein de notre société. Nous ne construisons pas là dans des quartiers pauvres pour mettre des personnes en situation de grande vulnérabilité. Nous ouvrons en fait précisément la ville, et au départ parfois ça crée un peu des tensions, et puis finalement les gens se disent mais ce sont des hommes et des femmes comme nous, etc., qui sont différents de nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens.
Et vous dites ça, excusez-moi Bernard Devers, parce que vous prenez la mixité sociale, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'intervenir dans des quartiers dits prioritaires exclusivement ou défavorisés.
Il s'agit surtout d'intervenir effectivement dans des quartiers qui ne sont pas marqués en fait par des situations de pauvreté. Et donc tirer par le haut, et ça donne des résultats tout à fait intéressants, parce qu'en fait, au fond, pour essayer de lutter contre les situations de misère et de grande pauvreté, il faut que les personnes, finalement, découvrent qu'elles trouvent l'estime d'elles-mêmes. Et tant qu'elles n'ont pas cette estime d'elles-mêmes, en fait, finalement, on fait rien. Et naturellement, la qualité du logement qui est proposé conduit ces gens à dire, en fait, on se moque pas de nous. Et donc, là, finalement, il y a une ouverture, une sorte d'électrochoc, et à partir duquel, finalement, il y a une possibilité de construire, de se reconstruire. Nous, notre démarche, c'est précisément de tenter de faire en sorte que la personne, on lui permette, elle redécouvre aussi ses talents. Et lorsqu'il y a le talent qui est découvert, eh bien, finalement, il y a une ouverture.
Quelle garantie, quand on est propriétaire, a-t-on à proposer un logement à des familles en détresse, en sachant qu'il y a toujours le souci de la garantie du loyer ?
Alors cette garantie du loyer, c'est nous qui l'assurons. Alors, d'abord, les propriétaires, enfin nos investisseurs qui investissent sur nos foncières. La foncière Habiter Humanisme, c'est le logement d'insertion. Entreprendre pour humaniser la dépendance, c'est pour les personnes âgées qui sont en situation en fait de difficulté, au moins trois difficultés. Première difficulté, la dépendance. Deuxième difficulté, l'absence ou en tout cas l'insuffisance de ressources. Et troisième difficulté, en fait aussi l'isolement. À partir de ces situations-là, nous créons des logements qui sont des logements adaptés. Naturellement, nous prenons les risques financiers. On a mis des années pour parvenir à l'équilibre financier de cette structure. Et aujourd'hui, elle est véritablement en équilibre, au point d'ailleurs que l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, le gendarme de la finance, nous a donné un énième, c'est le 22e visa, pour en fait collecter 22 millions d'euros. Alors vous allez dire, oh là là, mais ce sont des sommes tout à fait considérables. Mais quand on ramène naturellement cela au logement, en fait, ça fait pas tant de logements que cela. Et il faudrait naturellement parvenir à des collectes plus importantes pour essayer en fait d'atténuer ce drame, ce malheur qu'est le mal logement.
Bernard Devers, président fondateur d'Habitat Humanisme, invité des Carnets. Bernard qui a été élu entrepreneur social en 2015 par le Boston Consulting Group. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que ça a permis de mettre en lumière votre action créée et lancée en 1985. Grâce à vous, on va parler d'une réalité qui dérange énormément la solidarité aujourd'hui et l'économie sociale et solidaire qui décidément a du mal à remonter vers le haut de la surface et des hautes instances de décision. J'ai lu Emmaüs, Le Secours Catholique, Nouvelle Solidarité pour le Logement, Habitat Humanisme disant non, stop, attention, vous venez d'envoyer une lettre, Bernard Devers, aux députés en disant faites attention, l'économie sociale et solidaire, comme on le dit depuis 12 ans dans les Carnets, c'est pas une réparation, c'est une construction réelle, c'est une véritable économie. Et là, la disparition de l'ISF qui permettait de défiscaliser en engageant une épargne sur et de l'argent sur des entreprises solidaires, cette disparition est une catastrophe.
Alors, on assiste, si vous me permettez l'expression, à un divorce. Un divorce entre la fiscalité et la solidarité. Alors, on ne va pas discuter sur la question de la disparition de l'ISF. Hein, en fait, la décision, elle est prise.
Ouais. Sauf que ça va étonner plus d'un auditeur ou d'une auditrice d'apprendre que cette partie, quand même, qui était très souvent montrée du doigt de l'ISF, donc des gens plus aisés que les autres, cette partie-là jouait un grand rôle dans les entreprises solidaires.
Eh oui, tout à fait. Elle jouait un grand rôle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, des personnes fortunées qui payaient cet impôt pouvaient voir réduire cet impôt avec un investissement qu'ils fléchaient, et donc notamment sur la question du logement. Et nous, je veux dire qu'en fait, cette disparition de l'ISF, on va en souffrir. Quand je dis nous, on va en souffrir, c'est aussi les personnes en situation de grande fragilité qui vont en souffrir. Donc nous disons attention. S'il y a divorce, il faudrait au moins qu'il y ait un consentement mutuel, quoi. Donc, quelles sont les propositions? C'est par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, puisque ça, c'est l'impôt qui va remplacer, l'IFI qui va remplacer, en fait, l'ISF. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une défiscalisation, en fait, de l'investissement dans les foncières solidaires du montant de l'IFI. Et alors, on va me dire, oui, mais c'est encore un avantage fiscal. Arrêtons de dire cela, parce que c'est pas une niche fiscale. Une niche fiscale, quand on parle de niche, c'est un lieu de protection. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? C'est de protéger des personnes qui sont, quand elles sont à la rue, donc finalement, il y a véritablement besoin de leur trouver un abri, quand des familles, quand des gosses, il y a plus de 2 millions de gosses aujourd'hui, qui ont un présent difficile et par là même un avenir absolument compromis. Parce que ils vivent dans la pauvreté et que le logement aussi est un des syndromes de la pauvreté. Donc il y a une urgence, précisément, à mobiliser une épargne. Les investisseurs, mais qui investissent dans les foncières, ils ne nous demandent pas de leur donner un dividende. Le dividende qu'ils attendent, c'est précisément un changement dans la société. C'est une économie autrement. Et si notre société, aujourd'hui, le chef de l'État a décidé, en fait, d'opérer un certain nombre de grandes réformes, je ne vais pas discuter sur la question des réformes, mais il dit aussi, attention, ces réformes, il faut les faire, mais il faut aussi protéger. Et l'économie solidaire, à la fois, vous avez eu raison de le souligner, elle n'est pas simplement de l'ordre de la réparation, elle est de l'ordre de la transformation. Mais transformer, c'est aussi aider ceux qui sont en difficulté, de faire en sorte que les réformes qui vont être opérées, et avant qu'elles portent leurs fruits, finalement ne soient pas davantage en situation de souffrance.
Mmh. Alors, il y a un problème supplémentaire, enfin une réalité supplémentaire aujourd'hui, à savoir la venue de réfugiés, de migrants pour Habitat Humanisme, encore un nouveau défi.
Alors c'est un nouveau défi, je veux dire qu'en fait, voilà... Et moi, je voudrais attirer quand même l'attention sur ce drame-là, parce qu'en fait, malheureusement, il y a des, disons les choses simplement, il y a des réseaux aussi mafieux qui instrumentalisent la misère de ces gosses, et on voit des gosses qui sont embarqués dans des problèmes de prostitution, etc. Halte là, quand je dis en fait, halte là. Je trouve qu'à un moment, il doit y avoir dans ce pays, et je crois que l'économie sociale et solidaire y participe, il doit y avoir finalement, en fait, une sorte d'éthique, et l'éthique, moi, je le prendrais bien au sens de Lévinas, c'est une certaine optique. Quelle vision avons-nous de la société ? Et cette vision, si nous voulons une société qui soit plus solidaire, je trouve qu'il ne faut pas simplement tenir des discours, il faut aujourd'hui mettre des moyens, et des moyens juridiques et fiscaux, permettant précisément qu'il y ait au rendez-vous une épargne qui nous permette d'investir.
Courez vite sur le site d'Habitat Humanisme, c'est Habitat, trait d'union, humanisme, je dis bien trait d'union, parce que c'est encore plus joli. Trait d'union, humanisme.org. Merci
Bernard. Très joli, trait d'union. Merci à vous.
Merci Bernard.
Merci.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Alors, le débat provoqué par la disparition de cette forme d'actionnariat volontaire, même si les dons sont toujours en partie déductibles de vos impôts, arrive à point nommé ou mal à propos, c'est selon, au cours de cette semaine placée sous le signe de la finance solidaire. C'est la 10e année qu'a lieu cette semaine de sensibilisation portée par l'association FinanSol. Ce collectif des acteurs de la finance solidaire fait la promotion depuis 1995, date de sa création, de l'épargne à laquelle chacun peut participer afin de favoriser l'accès à l'emploi et au logement des personnes en difficulté. En 1997, FinanSol crée également un label afin de distinguer les produits de l'épargne solidaire des autres produits d'épargne. Ce label vaut, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure par Bernard Devers, comme fléchage des placements solidaires que vous pouvez réaliser. Pour promouvoir cette démarche, FinanSol édite aussi des guides pédagogiques comme le guide des placements solidaires que l'association édite avec Alternative Économique. Son site, c'est finansol.org. FinanSol qui a estimé la perte de 1,5 milliard d'euros dans la suppression de l'incitation à investir dans les entreprises solidaires au titre de l'ISF. Affaire à suivre. On retourne dans la Nièvre avec le jeu des 1 000 euros. Nicolas Stoufflet qui nous attend pour une troisième édition du jeu à Guérigny.